Bonjour à tous. Vous ne connaissez pas cet homme-là, je pense. Il s'appelait Hiro Onoda. C'était un soldat japonais qui, en 1944, un an avant la fin de la guerre, a été envoyé sur une île des Philippines pour combattre les Américains. Il était là avec toute une garnison. Et en 1945, quand la guerre a été terminée, vous savez de quelle façon tragique, malheureusement, lorsque les Japonais ont subi la défaite, les Américains ont largué des millions et des millions de tracts sur toutes ces petites îles des Philippines pour leur dire « la guerre est finie, ça y est, terminée ». Mais cet homme s'est dit avec trois de ses camarades que c'était une tromperie, que c'était une ruse de guerre. Et donc, ils ont décidé de continuer le combat. Cet homme s'est caché dans la jungle pendant 30 ans. Pendant 30 ans, il est resté persuadé que la guerre n'était pas finie. Il a tué plusieurs Philippins, malheureusement, et il a survécu comme une bête sauvage pourchassée dans les bois. Et finalement, en 1974, c'est un Japonais qui a réussi à le rencontrer, donc 30 ans plus tard, pour lui dire « Écoute, c'est fini vraiment ». Et il a dit « Je te croirai que lorsque mon chef de ma garnison d'il y a 30 ans avant viendra me dire que je dois cesser le combat ». Et ce chef donc s'est déplacé, est venu, le lui a dit, et à ce moment-là, il s'est rendu, il a cessé son combat. Voilà un homme qui manifestement n'avait pas combattu le bon combat. Et on arrive dans notre série sur la deuxième épître à Timothée à la véritable conclusion de cette épître dans le chapitre 4, les versets 6 à 8. Ces versets sont suivis d'un certain nombre de dispositions pratiques qui feront l'objet d'une prédication encore ultime la semaine prochaine. Mais la vraie conclusion de cette épître, elle est ici dans ces quelques versets. C'est la conclusion donc de cette deuxième épître de Paul à Timothée. C'est aussi la conclusion de l'ensemble des écrits de l'apôtre Paul. C'est la conclusion aussi de toute une vie qui a été placée au service du Seigneur. Ce sont des versets qui sont empreints d'une certaine émotion, d'une certaine gravité. Et nous allons les lire ensemble. Une fois n'est pas coutume, je vais le lire dans la version second, qui, je trouve, pour certains des mots employés ici, rend mieux l'original. Je le commenterai très brièvement après. Mais pour tous ceux qui n'ont pas de Bible et qui veulent malgré tout suivre le texte, et on vous y encourage vivement, c'est à la page 784 de vos Bibles qui sont dans les bancs ici que vous pouvez trouver ce texte, les versets 6 à 8. « Car pour moi, c'est l'apôtre Paul qui parle, je sers déjà de libation. » Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Simplement trois versets pour les retenir un petit peu comme les dernières paroles, dernières expressions de la pensée de l'apôtre Paul, alors que nous savons que peu de temps après, l'empereur Néron va le faire décapiter. Les dernières paroles d'un homme de cette envergure sont empreintes d'émotions, peuvent être pathétiques et de gravité même. Et dans un dimanche aussi pluvieux et gris comme ceci, je me dis, on va plomber l'atmosphère encore un peu plus. Mais je crois que c'est se méprendre un petit peu sur tout ce que l'apôtre dit ici. À l'approche de sa mort, on a ici l'expression de comment Paul voit les choses sur le passé, sur l'avenir. Et il nous dit quatre choses, ce sera un petit peu le plan de ce qu'on va examiner ensemble. Il voit sa fin comme étant l'apothéose d'une vie tout entière offerte à Dieu, comme un sacrifice. Il voit sa fin comme l'aube d'un embarquement pour un nouveau voyage. Il voit ici l'occasion de faire un bilan lucide et glorieux sur toute une vie au service du Seigneur. Et on le voit ici, les regards fixés sur les cieux ouverts, sur l'avenir glorieux qui lui est promis. On va voir successivement un peu ces quatre points qui suivent le déroulement de ce verset, tout simplement. Pour moi, je sers déjà de libation. L'apôtre Paul emploie ici un vocabulaire qui est celui du langage de la prêtrise, le langage sacrificiel de l'ancienne alliance. Une libation, c'était quoi ? C'était une offrande ultime que l'on venait verser, de l'huile ou du vin, sur un sacrifice qui avait déjà été offert. Et il exprime donc, et il explique que sa mort, il la voit un peu comme un geste ultime venant couronner déjà toute une vie de sacrifice. Et le sacrifice sur lequel, en général, était versée la libation, donc comme geste ultime d'un sacrifice, c'était le sacrifice de l'Holocauste que l'on voit détaillé dans l'Ancien Testament. Il faut se reporter un peu au Lévitique, etc., les récits de l'Exode, pour comprendre cela. Et l'Holocauste était un sacrifice qui avait un sens particulier. Il signifiait l'offrande vraiment de toute une vie, la consécration de toute une vie en faveur du Seigneur. Et donc l'apôtre Paul voit ici, si vous voulez, ce moment par lequel il va passer comme étant l'apothéose et non pas comme étant la fin de toute sa vie qui a été offerte totalement dans son temps, dans son énergie, dans son investissement, dans ses forces pour le service du Seigneur. L'apôtre Paul n'a pas très souvent parlé de lui-même, mais il a exprimé dans quelques-unes de ses épîtres un peu ce qu'a été sa vie pour Dieu. Et on le voit dans le livre des Actes, au travers de ses arrestations, ses transferts, etc., ses persécutions, le rejet qu'il a subi, les difficultés parfois au sein même des églises, un peu ce qu'a été sa vie. Et j'ai fait une sélection de quelques-uns des versets qui témoignent un peu de ce don total de lui-même dans le ministère. Nous avons, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, l'apôtre Paul dit à cette église, « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. » Dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, jusqu'à cette heure, il expose un petit peu sa vie, ses temps de voyage, etc. « Jusqu'à cette heure, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, au coup, à une vie errante. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous consolons. Nous sommes devenus les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Et ceci pour le service du Seigneur. Encore dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul qui dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. » Toujours aux Corinthiens. Trois fois j'ai été battu de verge, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, souvent en voyage, exposé aux dangers des fleuves, aux dangers des brigands, aux dangers de la part de mes compatriotes, aux dangers de la part des païens, aux dangers de la ville, aux dangers du désert, aux dangers de la mer, aux dangers parmi les faux frères. Au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. » Voilà un peu quelques expressions, il y en a d'autres, qui montrent à quel point l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de sa vie offerte totalement en sacrifice pour le service du Seigneur, c'était une réalité forte, et que sa mort, cette décapitation qu'il allait subir de la part de Néron, était vraiment le point ultime et l'apothéose de toute cette vie donnée à Dieu. Mais il ne voyait dans tout cela, non pas comme un manque de chance, comme une défaite, mais comme vraiment une offrande faite à Dieu de toute une vie. Je pense que dans ma profession, comme dans bien d'autres, j'entends des gens de l'âge mûr, ou même un peu au-delà, je ne sais pas comment il faut le qualifier, on se désole un petit peu de voir toute une génération qui place plutôt le souci de sa propre protection en avant que le souci de la consécration véritablement à son métier, tout simplement. Vu comme un peu un sacerdoce, surtout dans les métiers qui sont des métiers de service. Une génération qui place le confort personnel devant l'oubli de soi pour les autres. J'aurai des exemples à vous donner dans ma profession en particulier de ce point de vue-là qui ne sont pas tristes. Et cela nous interroge. Est-ce que nous suivons un peu le cours de ce monde, que ce soit dans notre service quotidien dans l'Église ou dans nos ministères, pour ceux qui ont un ministère qualifié comme tel, mais nous sommes tous appelés à un ministère en faveur du Seigneur, est-ce que nous serions un petit peu de la mentalité de cette nouvelle génération? Ou est-ce que nous avons vraiment encore rivé au cœur et au corps ce désir vraiment de tout donner pour le Seigneur lorsque nous nous engageons pour le servir et nous nous engageons pour lui? Tout donner pour lui, vraiment, faire l'offrande totale de notre temps, de notre énergie, de notre consécration pour le Seigneur. Jeune chrétien, j'ai été fortement impressionné par l'histoire d'un missionnaire américain qui s'appelait Jim Elliot. Bien avant que je connaisse ma femme, dont la maman a été à l'université aux États-Unis dans une école biblique avec lui. Et cet homme, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, il a quitté le confort des États-Unis, etc., pour partir comme missionnaire dans des peuplades sauvages, véritablement, de l'Amérique du Sud, de l'Équateur, parmi les Hoka. Et là-bas, il a été tué avec ses trois camarades au service du Seigneur. Et dans son journal, il avait écrit une phrase qui, je trouve, est très émouvante. Il disait « Il n'est pas fou ». Celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Il n'est pas fou, celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Et nous avons besoin de réfléchir sur cette notion. Le Seigneur, quand il nous appelle à tout lui donner. Nous chantons volontiers des chants de cet ordre-là. « Oui, prends tout Seigneur ». Chaque fois que je le chante, ce chant, personnellement, je tremble un peu. Je me dis, est-ce que c'est une réalité dans ma vie, véritablement? Et nous avons besoin de nous interroger là-dessus et de ne pas attendre le dernier jour pour le faire. L'apôtre Paul développe ici une autre vision de la mort. Pour lui, c'est un nouvel embarquement. Le terme qui est employé ici, qui est traduit dans vos Bibles parfois par « départ », en fait, c'est un terme qui est très peu employé dans le Nouveau Testament et qui est un terme de la technique de navigation. Il signifie « larguer les amarres », il signifie « lever l'ancre ». Souvent, on voit la mort comme, et on le dit dans des cérémonies d'obsèques, « voilà, il est arrivé au port ». Non, l'apôtre Paul voit toutes les choses tout autrement. Il n'est pas arrivé au port, il est seulement en train de lever l'ancre pour un nouveau voyage, pour un nouveau départ. Et on va le voir à la fin avec le dernier verset de ce texte, comment il voyait déjà les cieux ouverts pour lui vers cette destination nouvelle qui l'attend. Paul avait effectué de nombreux voyages et il était là, à l'approche de sa fin, en train d'entamer un nouveau voyage, une nouvelle étape de son existence. Ce n'est pas une fin, mais c'est une nouvelle étape de son existence. Et vous savez, de notre compréhension de ce qu'est la fin et de la mort, et on ne pense pas forcément souvent, lorsqu'on est jeune en particulier, à cette issue, on se croit à l'abri de tout, de notre compréhension de la fin découle aussi le sens que nous donnons à notre vie. Et si nous savons que nous ne sommes pas créés pour la fin d'une existence, l'anéantissement, etc., mais nous sommes créés pour une vie glorieuse à venir, nous avons aussi envie de vivre notre vie présente d'une façon glorieuse à la gloire du Seigneur. La troisième chose dans ce texte, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. L'heure d'un bilan lucide et glorieux. Est-ce le moment pour y penser ? L'approche du départ, comme pour l'apôtre Paul, nous indique assez naturellement que oui, c'est le moment de faire un bilan, c'est le moment ou jamais pour faire un bilan de sa vie. Mais l'apôtre Paul, en plein d'autres endroits de ses épîtres, et il le pratique lui-même à plusieurs reprises, nous le voyons faire un bilan de sa propre vie. Dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, pardon, au chapitre 13, le verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, pour voir si vous êtes encore dans le cadre qui est celui dans lequel vous devez évoluer. Éprouvez-vous vous-même. » Et à l'issue de cette épreuve, il dit « Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. » Mais le but de cette épreuve, lorsque nous sommes véritablement dans la foi, doit nous conforter dans le fait que, effectivement, Jésus-Christ est en nous et que donc notre vie doit être en cohérence avec cette réalité que Christ est en nous. L'apôtre Paul, à propos de la scène, et cela nous est rappelé tellement dimanche après dimanche, que nous l'oublions peut-être dans 1 Corinthiens 11, que chacun s'examine soi-même, alors que chacun s'examine soi-même pour qu'il ait sache si la réalité de sa foi ne repose pas sur des œuvres, sur ses propres œuvres, mais sur la seule grâce du Seigneur qui est manifestée présentement sur cette table au moment de la célébration du repas du Seigneur. Mais nous avons besoin, et je vous disais, l'apôtre Paul, au fil des épîtres, le fait à plusieurs reprises, de faire le point sur nos vies à tout moment et de nous dire, est-ce que je suis encore en train de combattre le bon combat? Est-ce que je suis en train de courir la bonne course? Est-ce que je suis en train d'aller vers son achèvement ou est-ce que je suis resté scotché sur place? Est-ce que je vais de l'avant? Est-ce que je marche de progrès en progrès? Encore une phrase de l'apôtre Paul. Dans nos vies frénétiques, nous avons du mal à avoir ces moments où nous entrons en nous-mêmes. Et j'aime beaucoup cette expression que l'on retrouve dans la parabole du fils prodigue, où après avoir fait tout un bout de chemin loin du Père, En prenant de la distance par rapport au Père, le fils prodigue s'arrête et il dit « étant entré en lui-même ». Est-ce que nous avons des occasions d'entrer en nous-mêmes, de faire le point, de nous demander « mais où est-ce que j'en suis ? Que vaut ma vie ? Est-ce que je suis en train de construire avec de la paille ? » L'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens au début de son épître. « Ou est-ce que je suis en train de construire avec quelque chose de précieux véritablement pour le Seigneur ?» L'apôtre Paul emploie ici les expressions qu'il a déjà employées dans le chapitre 2 à propos de sa vie chrétienne, à propos de son ministère, de son service. Il emploie les images qu'il a utilisées dans le chapitre 2, verset 4, où il dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Il reprend deux de ces termes ici, pour évoquer que la vie est un réel combat, que la vie chrétienne est une course. Et ces deux mots indiquent une notion de dynamique, une notion d'élan, une notion d'investissement d'efforts auquel nous sommes appelés. L'apôtre Paul, dès l'instant où il s'est converti, vous connaissez le récit de sa conversion, tout à fait spectaculaire, qui ne ressemble certainement en rien à celle que nous avons les uns et les autres connue. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'est converti, a été invité à aller voir Ananias, qui devait lui indiquer la suite du programme. Et dans la suite du programme, la dernière mention qu'Ananias a faite, que Dieu lui a demandé de faire à l'apôtre Paul, c'est « Je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom ». Je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Si on vous avait dit ça dans la minute qui a suivi votre conversion, est-ce que vous seriez allé de l'avant? Peut-être, par la grâce de Dieu, je le souhaite. Mais ce n'est pas très vendeur. Et nous vivons dans un temps où Internet, la littérature qui est diffusée, promet tellement d'autres choses. Ces apôtres de la prospérité, ces prophètes de l'abondance et de la bénédiction, l'apôtre Paul les qualifierait volontiers de notre temps de raconteurs de fables, comme il le dit dans les versets qui précèdent le texte que nous étudions en ce moment. Promesses de guérison multiples, promesses de prospérité, promesses d'abondance, promesses de puissance. Tout cela semble bien séducteur. Mais est-ce la réalité de la vie chrétienne? L'apôtre Paul parle de combat, parle de course à poursuivre. Il parle de persévérance, il parle d'obéissance, il parle de renoncement, il parle de consécration d'abord et avant tout. Et la première chose que le Seigneur lui a montrée lorsqu'il lui a mentionné le ministère qu'il aurait parmi les païens, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Si nous n'avons pas intégré cette donnée dans notre compréhension de la vie chrétienne, nous n'allons pas aller loin dans la course et dans le combat. Nous ne saurons pas tenir dès les premières épreuves arrivées. La vie chrétienne, elle est faite de faiblesse, l'apôtre Paul le témoigne. Elle est faite d'épreuves, l'apôtre Paul ne nous les cache pas les siennes. Elle est faite de déceptions, l'apôtre Paul en a vu de multiples. Parce que nous en venons à ce critère essentiel du bilan que l'apôtre Paul dresse de sa vie. Est-ce qu'il est dans une culture du résultat ou dans une autre type de culture pour évaluer le ministère? Est-ce qu'il évalue son combat à la mesure du nombre de conversions qu'il a, d'âmes qu'il a amenées à la conversion? Est-ce qu'il l'évalue au nombre d'églises implantées, au nombre de ministères suscités par son propre ministère? Est-ce qu'il l'évalue à la réussite? À aucun moment. Lorsque dans le chapitre 2, il parle du soldat, il parle de plaire à celui qui l'a enrôlé. Lorsqu'il parle de la course, il parle d'avoir couru suivant les règles. C'est-à-dire que l'apôtre Paul développe plutôt une culture de la manière que du résultat. Et je crois que le Seigneur est plus attaché à la façon dont nous persévérons, dont nous gardons la foi, et il conclut ce bilan par cela, j'ai gardé la foi, à la façon dont nous agissons avec justice, avec amour, plutôt qu'au résultat que nous avons remporté, dont nous pouvons faire état. J'ai connu un couple de missionnaires d'origine anglaise qui ont travaillé au moins 2 décennies dans la vallée du Grésivaudan. Je me suis posé beaucoup de questions à propos de leur ministère. En 20 années, ils avaient amené une âme au Seigneur, mais ils avaient persévéré. Et aujourd'hui, dans la vallée du Grésivaudan, il y a 4 églises évangéliques qui célèbrent le Seigneur. Je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes le fruit de leur ministère, mais ils ont persévéré pour peu de résultats. Et je pense qu'ils ont eu aussi cette récompense que le Seigneur réserve à ceux qui combattent suivant les règles avec fidélité, en gardant la foi simplement. Y aurait-il eu des 20 combats que l'apôtre Paul aurait pu exécuter, combattre? Bien entendu. Il en a évoqué plusieurs tout au long de ses épîtres, et en particulier dans cette épître à Timothée, dans la série de prédications que nous sommes sur le point de conclure, on en a évoqué plusieurs. L'attachement aux détails, les polémiques sur le rien du tout, l'esprit de division, l'esprit de supériorité, vouloir être le premier, il l'évoque en particulier dans l'épître aux Corinthiens, la démonstration qu'il est le meilleur. Tout ça, ce sont de 20 combats. Mike Evans, c'est un serviteur de Dieu que j'apprécie énormément. Il a beaucoup marqué ma jeunesse et ma vie chrétienne. Cet été, dans un camp, et je l'avais déjà entendu le dire une autre fois, dans un grand séminaire, en débutant une série de prédications, il a dit qu'il avait besoin de lutter toujours avec lui-même contre cette tentation enracinée en lui de toujours vouloir être le meilleur lorsqu'il allait prendre la parole dans une prédication. Il y avait beaucoup d'humilité dans cette confession. Au bout de je ne sais combien de décennies de service pour le Seigneur, à des plus hauts niveaux dans la vie de l'Église en France, dans le monde francophone, pardon, il était encore en lutte avec lui-même. Et l'apôtre Paul l'a dit très honnêtement à propos de lui-même. Il avait un combat à mener contre l'orgueil. Vouloir être le premier aurait été un vain combat pour l'apôtre Paul. Parce que les bons combats que l'apôtre Paul a menés, lesquels sont-ils? Ils ne sont pas énumérés ici. Il ne fait pas l'état de son bilan ici. les bons combats que l'apôtre Paul a menés, lorsqu'on fait une lecture transversale un petit peu de toutes les épîtres, moi j'en ai relevé quatre essentiels. La défense de la vérité de l'évangile, celui de la grâce et non pas celui des œuvres, celui de l'obéissance et non pas celui de la facilité. Le deuxième combat, je ne développe pas plus chacun de ces thèmes, la lutte pour la persévérance et la fidélité dans la vie chrétienne et le ministère, quelles que soient les difficultés, les épreuves, les persécutions qu'il a traversées. La défense de l'unité de l'Église. On aurait tendance à idéaliser l'Église de l'époque de l'apôtre Paul. Elle était toute neuve, elle était toute fraîche, elle était toute belle. Non, elle n'était pas comme ça. Elle était déjà traversée par des gens qui voulaient y créer des partis, par des gens qui voulaient la diviser, par des gens qui voulaient la séduire, par des gens qui voulaient profiter de la crédulité de ceux qui étaient là et qui étaient faibles. L'apôtre Paul s'est battu pour la défense de l'unité de l'Église. Au cours de cet été, avec mon épouse, nous avons appris de ci et de là, au total, des nouvelles tristes de quatre églises évangéliques de nos jours qui se sont divisées. Nous ne sommes jamais à l'abri d'une division, d'une destruction d'une église qui marche. Et l'apôtre Paul a fait de cela son combat aussi, que de veiller à cette unité de l'Église autour de la vérité de l'Évangile. Et le dernier combat que je vois chez l'apôtre Paul comme essentiel, la quête de la sainteté personnelle, vouloir être un modèle, d'abord et avant tout, avant de pouvoir prêcher aux autres, et la quête de la sainteté de l'Église, qu'il disait vouloir être une épouse pure, irréprochable, à présenter à notre Seigneur. Les bons combats d'hier restent les bons combats d'aujourd'hui. Et ce ne sont pas, il ne consiste pas dans la mission simplement des anciens de notre Église, des responsables d'activités, de ministères, des diaconesses. Ces bons combats, nous avons tous à les mener. Et à veiller que par nos comportements, nous soyons dans le cadre, nous soyons encore dans la bonne manière de combattre, que nous combattions de façon juste encore, aujourd'hui. Si nous tentons que nous avons conscience d'avoir à en mener de ces combats. Pendant longtemps, je n'ai pas aimé Paul, je dois vous le confesser, j'ai bien changé. Je le trouvais orgueilleux dans tout ce qu'il disait. Quand il disait « Soyez mes imitateurs », mais j'oubliais la suite, comme je le suis moi-même de Christ. Quand il prétendait, comme dans ce verset, « Voilà, j'ai combattu le bon combat », quand il disait « Voilà, j'ai une bonne conscience en ayant poursuivi tout mon ministère », mais c'était mal peut-être le connaître, mal connaître ce qu'il a été, l'homme qu'il a été, parce qu'il a voulu être conforme à la personne de Jésus-Christ. Y a-t-il une légitimité à faire une telle évaluation à un moment donné de notre vie ? Peut-être pas tout jeune, lorsqu'on n'a encore pas combattu grand-chose, mais un petit peu plus tard. Je crois que oui. L'apôtre Paul, d'un côté, mettait en garde contre avoir une trop haute opinion de soi-même, et on pourrait se dire, oh là, j'ai combattu le bon combat, et il a une très bonne opinion de lui-même. Et le dénigrement de soi, qui est parfois la marque un petit peu d'une fausse humilité évangélique que nous pourrions avoir. Nous avons besoin d'être justes et de nous évaluer devant le Seigneur, et je crois que nous avons le droit de le faire, et que c'est utile que nous puissions le faire, parce que l'apôtre Paul a souligné une chose et une seule tout au cours de son ministère, et notre culte a été beaucoup centré autour de ça, dans les prières, dans les chants que nous avons chantés, c'est que tout ce qu'il a fait, il l'a fait par la grâce de Dieu. Dans 1 Timothée au chapitre 1, les versets 12 à 14, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Patrice, dans la présentation de la scène, l'a souligné, cela. « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Si nous pouvons à un moment donné de notre vie nous dire, Seigneur, oui, effectivement, j'ai combattu avec fidélité, nous ne pouvons le dire que parce que la grâce de Dieu a été en nous. Et tout à l'heure, nous avons chanté ce chant. Je l'ai écrit dans ma marge. Jour après jour, je crois, j'ai besoin de toi. Nous avons chanté, c'est ça, les paroles. Pardon ? J'ai soif de ta présence, voilà. Et nous pouvons dire, au cours de notre vie, de notre parcours, que si nous avons quelque peu servi le Seigneur avec fidélité, ce n'est uniquement par la grâce de notre Dieu. Et je termine plus rapidement sur le dernier verset. Désormais, et désormais veut dire que j'ai les yeux ouverts sur autre chose, sur un avenir qui est glorieux. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 5 choses simplement à mentionner ici. Le fait que l'apôtre Paul va à la rencontre de son Seigneur maintenant. Et quand son Seigneur, il voit un juste juge, il n'y aura pas de tromperie. Rien ne pourra être caché à ses yeux. Il connaît jusqu'à nos pensées les plus intimes dans tout ce que nous faisons. Il y a la perspective d'une récompense glorieuse. Je ne veux pas développer ici une théologie des récompenses. Y en a-t-il des différentes? Est-elle la même pour tous? Peu importe. Mais il y a une récompense qui nous attend dans les cieux. Il y a tout un peuple de rachetés qui nous attend déjà dans les cieux. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux. Il y en a d'autres qui sont dans les cieux qui nous attendent. Et nous allons rejoindre, lorsque nous rejoindrons dans cette nouvelle étape de notre existence, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous rejoindrons toutes les grandes figures dont la parole de Dieu a parlé, qui ont été fidèles, tous ceux qui ont vécu par la foi, qui sont cités dans Hébreux au chapitre 12. Nous serons auprès d'eux, à leur côté, parmi tous ceux qui auront trouvé leur motivation à servir le Seigneur, et bien dans l'amour de Christ, qui est présenté comme une qualité première. C'est parce que nous avons servi, que nous avons vécu avec l'amour de Christ rivé dans nos pensées, que nous aurons aimé son avènement. Et quand l'apôtre Paul dit son avènement, je pense qu'il a deux idées en tête. L'avènement passé, sa première venue. Nous avons aimé Christ venu sur la terre, le modèle qu'il nous a donné, le message qu'il a délivré, le caractère qu'il a démontré, mais aussi Christ dans sa seconde venue, dans l'attente que nous avons du fait qu'il va revenir. Et tout cela, si nous l'investissons d'un amour vraiment parfait en lui, eh bien est de nature à motiver un service que un jour le juste juge reconnaîtra comme un bon combat, comme une course bien achevée, comme une foi que nous avons gardée jusqu'à la fin. Et il pourra nous dire, je l'espère, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle, entre dans la joie de ton maître. C'est la parabole des talents que Jésus a exposée dans Matthieu. Et nous pouvons dire, oui Seigneur, si j'ai pu quelque chose, c'est uniquement par toi qui m'a fortifié. Amen.